La parabole du bon samaritain n'est pas compliquée. Elle est bien connue des enfants de l'école biblique et surtout très appréciée des moniteurs et monitrices d'école biblique parce que justement, la leçon en est assez simple et on voit assez facilement que, en fait, on peut l'entendre comme une sorte de leçon d'histoire un peu moralisante, montrant qu'il faut aider les gens qui sont dans la difficulté. Et en effet, le bon samaritain est montré comme un personnage remarquable parce que lui, il a aidé le blessé alors que les autres n'ont rien fait. Et donc, on en tire cette morale qu'il faut être gentil avec tout le monde. Au passage, on remarque qu'il y a une petite critique de l'Église, une petite critique des bons croyants, critique des pasteurs, des prêtres, qui justement, eux, n'ont rien fait. Donc Jésus, à la fois, donne l'exemple de quelqu'un de serviable et de miséricordieux, mais c'est quand même un petit peu trouble, parce qu'il prend justement l'exemple de quelqu'un qui n'est pas bien comme il faut. Les Samaritains étaient en effet tout à fait méprisés par les Juifs. Et donc, ça montre que ce ne sont pas forcément les bons croyants qui sont les meilleurs, mais peu importe, l'important c'est d'aider ceux qui sont dans la difficulté. Au passage, justement, le fait que Jésus ait choisi là un Samaritain permet d'en faire aussi une sorte de modèle de leçon antiraciste, je dirais. En effet, je vous l'ai dit, les Samaritains était mal aimé des Juifs. Il y avait une rivalité ancestrale entre les Samaritains qui habitaient au nord du pays et les Juifs, les Judéens, qui habitaient donc autour de Jérusalem, à un tel point que les Samaritains ne parlaient pas aux Juifs, refusaient de leur parler, refusaient même de les fréquenter. Et il était même considéré pour un Samaritain comme étant interdit d'approcher un Juif, parce qu'en approchant un Juif, le Samaritain pouvait devenir impur, comme s'il s'approchait d'un cadavre. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Pour un Samaritain, s'approcher d'un Juif, c'était une chose absolument impossible. Et inversement, les Samaritains, pour les Juifs, c'était la pire des engeances, les plus méprisables et les plus détestables, ceux vraiment avec lesquels on n'entretient aucun rapport. Et donc, en effet, voilà que Jésus choisit comme bon exemple celui qui n'est pas de la bonne société judéenne, celui qui n'est pas un bon croyant et celui qui est normalement le plus rejeté et le plus réprouvé, nous invitant à aller au-delà de nos catégories habituelles de pensée que nous devrions rester entre nous, autrement dit. Alors on peut s'arrêter là et ça fonctionne très bien, c'est ce que tout le monde fait à peu près, mais on peut aussi aller plus loin. Sur plusieurs points. D'abord, en remarquant que le Samaritain, non seulement est exemplaire, parce qu'il vient à l'aide du blessé, il le prend, il le met sur sa monture, et puis il va payer pour lui à l'hôtellerie. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le Samaritain, en faisant ça, se conduit comme s'il était coupable. En effet, normalement, c'est le devoir de celui qui est coupable que de réparer les fautes. Et donc, celui qui blesse quelqu'un doit, selon la loi, le prendre en charge, le soigner, l'emmener à l'hôtellerie et payer pour lui les soins. Autrement dit, le Samaritain agit là comme si c'est lui qui avait blessé le blessé, alors qu'il n'en avait rien fait. Ça, c'est assez étonnant, parce que ça nous enseigne deux choses qui sont très très profondes. D'abord, cela doit nous enseigner que, certes, la loi nous dit que nous devons payer pour nos fautes et réparer nos fautes, que nous sommes responsables du mal que nous avons pu faire, mais du coup, Jésus nous montre que nous pouvons nous considérer aussi responsables du mal qu'ont fait les autres. Et ça n'est pas si simple, même dans la vie courante. Je prêche pour mon propre péché, contre mon propre péché plutôt. Si je laisse tomber un papier par terre, je le ramasse en me disant « je ne dois pas laisser une ordure ». Mais si je vois un papier qui est déjà par terre, je ne ramasse pas en disant « c'est pas moi qui l'ai fait tomber ». Bon, d'accord, l'exemple n'est peut-être pas bon parce qu'on ne peut pas ramasser tous les papiers de la terre, mais en même temps, ça montre quand même notre état d'esprit qui consiste à penser qu'on est responsable du mal que l'on fait, mais que le mal que font les autres, ce n'est pas nos affaires. Et Jésus dit au contraire que nous pouvons aussi nous considérer comme responsables du mal que font les autres. Et ce n'est pas parce que des gens agissent mal que ce serait, comme malheureusement bien souvent dans notre société, une excuse à la limite pour agir mal de notre tour. Beaucoup de gens disent « les autres le font bien, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Et la morale de l'Évangile, c'est « peut-être qu'il y a des gens qui font le mal, non seulement ce n'est pas une raison pour moi de faire aussi le mal, donc des gens font le mal, eh bien moi je ne le ferai pas, et d'autre part, si des gens font le mal, ça me rend d'autant plus responsable de faire non seulement le bien qui me concerne, mais de faire en plus un surcroît de bien pour compenser le mal que font les autres. » Mais c'est encore plus que ça, parce que ce Samaritain, agissant de la sorte, d'une certaine façon se comporte en coupable et prend le risque qu'on l'accuse du crime. C'est-à-dire que vu qu'il agit exactement comme le ferait le criminel, quand il vient à l'hôtellerie dire « je paye tout, je m'en occupe », immédiatement l'hôtelier se dit « s'il le fait, c'est que c'est lui qui a blessé le blessé ». Donc le Samaritain assume l'hypothèse, il assume la possibilité qu'on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. Alors ça, je l'ai expérimenté moi-même. Encore une fois, dans la vie courante, même si cet exemple est tout à fait trivial, un jour, juste devant le temple là, je vois une moto qui était renversée. Voyant que l'essence coulait sur le trottoir, je viens pour relever la moto. À ce moment-là, quelqu'un m'arrive dessus et m'invective en me disant « qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait tomber ma moto !» Je lui dis « mais non, monsieur, elle était par terre et je la relève. » Et il me dit « vous ne la relèveriez pas si ce n'était pas vous qui l'aviez fait tomber. » Et voilà que, relevant cette moto, j'étais accusé de l'avoir fait tomber, en pensant que dans la logique ordinaire de l'humain, celui qui répare une faute, c'est qu'il s'accuse lui-même de cette faute. Donc vous voyez que, du coup, ce Samaritain prend un risque énorme par là. Et ce qui immédiatement nous ramène au Christ lui-même. Et ça, les pères de l'Église, depuis 2000 ans, ont vu très vite que ce bon Samaritain, entre guillemets, est en quelque sorte l'image même du Christ qui prend sur lui les conséquences de notre péché. C'est ce que l'on dit en tout cas à la messe tous les dimanches, Christ, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. C'est-à-dire cette théologie disant que Jésus prend sur lui notre faute. Alors qu'est-ce que ça veut dire, que Jésus prenne sur lui notre faute? J'ai toujours eu un peu de mal avec cette théologie-là, mais justement, la parabole du bon Samaritain me permet de le comprendre un peu mieux. Ce que je n'ai jamais aimé dans cette théologie de Jésus qui porte nos péchés, c'est, je dirais, la théologie du bouc émissaire, si vous voulez. En effet, ça revient à une histoire de l'Ancien Testament où on prenait un bouc, on disait qu'on le chargeait des péchés de tout Israël, on l'envoyait dans le désert, et le bouc mourant faisait disparaître avec lui les péchés d'Israël qu'il avait sur lui. Voilà. Donc ça, c'est un peu, j'explique à mes catéchumènes, pardon, je parle à vous comme si vous étiez jeune, hein, mais bon, vous supporterez peut-être, à mes catéchumènes que ça, c'est la théologie de la lessive. Vous savez comment ça marche, le savon pour laver les saletés? Eh bien, il paraît que les particules de savon, chacune, prennent une particule de saleté, donc la détachent du linge, et ensuite on rince, et la particule de savon part dans les égouts avec la saleté. C'est la théologie du bouc émissaire. Jésus prend ses péchés sur lui, il meurt sur la croix, et hop, tout passe à l'égout, Jésus, les péchés, tout ça, et on est lavé de notre faute. Cette théologie de la machine à laver ne me convient pas du tout, je n'y comprends à peu près rien. Par contre, grâce au bon Samaritain, je comprends mieux ce qu'il en est. C'est que le Samaritain n'a pas cherché a priori de se rendre coupable du crime. Simplement, il a agi pour aider le blessé au risque de subir, lui, les conséquences du coupable. Et c'est bien ce qu'a fait Jésus. Jésus est venu dans le monde non pas pour mourir sur la croix, mais il est venu dans le monde comme le bon samaritain pour nous prendre dans ses bras, pour nous témoigner de l'amour, pour nous aider, pour nous relever, pour nous faire vivre. Et il nous confie à l'hôtellerie. Alors, les pères de l'Église disaient que c'était l'Église, peu importe. Et il nous confie à l'hôtellerie, il prend tout soin de nous. Et en faisant cela, Jésus attire sur lui l'ignominie, la haine, la jalousie, et finalement meurt comme un coupable. Donc nous qui sommes coupables, Jésus vient nous annoncer la grâce et c'est lui qui meurt comme un coupable ignominieux sur la croix. Donc Jésus, effectivement, meurt comme un coupable. Il accepte cette possibilité parce que c'était le prix à payer pour nous annoncer la grâce. Donc voilà, vous voyez, on est parti d'une petite leçon de morale et on arrive dans de la christologie, comme on dit, c'est-à-dire, et de la sotériologie, c'est-à-dire une conception élevée de la nature du Christ, de sa mort, du sacrifice, du pardon et du salut. Mais on peut encore aller plus loin. Je vous disais dans la lecture que la parabole du bon samaritain est une parabole kaléidoscope, c'est-à-dire c'est une mosaïque de sens et on en découvre et plus on en découvre et plus on en redécouvre. Et la seule limite à ce que je ferai ce matin est celle du temps, parce qu'on pourrait y passer la journée. Mais néanmoins, autre entrée de lecture là-dedans, qui nous donne des enseignements absolument extraordinaires, c'est le contexte de la parabole. En effet, Jésus dit cette parabole en réponse à la question du docteur de la loi. Quand il dit « il faut aimer son prochain comme soi-même », Jésus dit « oui, c'est très bien ». Et le docteur de la loi dit « mais qui est mon prochain ?» C'est-à-dire « qui est celui que je dois aimer comme moi-même ?» Et Jésus répond par la parabole du bon samaritain. Donc la question qui est posée là, en plus des autres, c'est « qui est mon prochain ?» Alors, il faut savoir que dans le judaïsme traditionnel, le prochain n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que pour nos contemporains, la notion de prochain désigne à peu près tout le monde, n'importe qui, c'est-à-dire en gros mon semblable. Donc quand je donne 100 euros à l'UNICEF, c'est par amour du prochain. Voilà. Donc l'amour du prochain, c'est d'être bon avec tout le monde, avec n'importe qui, parce que le plus éloigné des Chinois à l'autre bout de la Terre est mon prochain. Autrement dit, pour nous aujourd'hui, on a tendance à considérer que le prochain, en fait, c'est le semblable, c'est mon frère humain. Bon. Dans le judaïsme traditionnel, c'était pas ça. Le prochain, alors, c'était celui de sa famille. C'est mon proche, quoi, si vous voulez. C'est celui de sa famille, de son clan, de sa tribu, éventuellement de sa religion, mais celui qui est à l'extérieur, c'est pas mon prochain. Voilà. Et donc, il y avait là, effectivement, une leçon qui était, de la part de Jésus, certainement, d'ouvrir un peu les portes et de dire, tu dis qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, mais tu vois, ton prochain, même si du point de vue de la tradition pharisienne, pour le juif, le prochain, ben, c'est le lévite et c'est le prêtre, et ben, peut-être que ton prochain, c'est pas le lévite ni le prêtre, mais ce peut être le samaritain, qui pourtant n'est pas de ta religion, pas de ta tribu, pas de ta famille, pas de ton clan, et même pas de ta race. Alors effectivement, la question quand même qui se pose donc à nous aujourd'hui, c'est qui est mon prochain? C'est-à-dire qui dois-je aimer de tout mon cœur, c'est-à-dire que c'est plus que rendre service, si vous voulez. Mon prochain, c'est qui est celui que je dois considérer comme membre de mon cœur, mon proche, ma famille, mon frère, qui est celui pour lequel je suis prêt à tout donner. Qui est mon prochain? Alors dire, comme aujourd'hui on le dit un peu, que le prochain c'est tout le monde, et qu'il faut aimer la terre entière, ça ne fonctionne pas. C'est faux, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Et quand on dit qu'il faut aimer tout le monde, finalement, on n'aime personne, si vous voulez, parce qu'il y a trop de monde à aider. Et du coup même, ce message, à mon avis, perverti du christianisme disant qu'il faut aimer un peu n'importe qui, entraîne des discours extrêmement dangereux, comme celui que j'entendais il y a quelques années dans un mouvement politique d'extrême droite et qui disait, pour justifier d'une certaine façon la xénophobie, disait, écoutez, il est évident que vous aimez vos enfants plus que vos cousins plus que vos voisins plus que vos compatriotes et vos compatriotes plus que l'étranger. Et donc l'étranger, sous-entendu, est, on peut très bien ne pas l'aimer. C'est un véritable poison de la pensée, ça. Parce que dans le fond, c'est vrai. J'aime mes enfants plus que celui que je croise dans la rue. Si mon enfant me dit « Papa, c'est la catastrophe, il me manque 100 euros », je lui donne tout de suite. Mais quand le type dans la rue me les réclame, ben, je ne lui donne pas tout de suite. Mon fils vient chez moi, il dort chez moi, je ne fais pas venir chez moi tous les SDF de la ville. Bon, et donc le problème, c'est que dans le fond, c'est vrai. J'aime mes enfants plus que mes voisins, plus que mes compatriotes et plus que l'étranger. Alors comment aller contre cette pensée-là? Eh bien, c'est que, justement, Jésus, là, à mon avis, démonte ceci en disant que celui que je dois aimer de tout mon cœur comme mon prochain, justement, ce n'est pas tout le monde, mais ce n'est pas forcément celui qui est, j'allais dire, de ma famille, de ma race, de ma tribu, de ma religion, ni même de mon pays. Et donc, il peut y avoir des liens transversaux. Autrement dit, il peut y avoir un étranger que j'aime plus que mon voisin, et même peut-être dans certains cas, un étranger que j'aime plus que mon cousin, voire même que mes enfants. J'en sais rien, ça peut arriver. Et en tout cas, c'est important parce que du coup, ça montre que il peut y avoir d'autres priorités dans la vie que simplement cette espèce de gradation que nous disait ce mouvement d'extrême droite, mais ça nous montre aussi qu'il faut faire attention à ne pas prétendre qu'il faudrait aimer tout le monde, parce que quand on dit qu'il faut aimer tout le monde, finalement, on ne peut pas, et donc on donne raison à ce type d'argument. Donc je reviens à la question du bon samaritain, qui est mon prochain? C'est-à-dire, qui est celui que je dois aimer comme mon propre enfant? Alors regardons de plus près. Regardons de plus près. En fait, il y a deux personnes essentielles dans ce récit. Il y a le bon samaritain et le blessé. Le bon samaritain, il aide. Pourquoi, d'ailleurs, aide-t-il l'autre? Eh bien, parce qu'il le rencontre sur son chemin et que, dans la mesure où il rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide, il l'aide. Autrement dit, le bon samaritain a bien agi, je reconnais qu'il y a là un exemple moral tout à fait intéressant, c'est qu'il se sent responsable de celui qui s'approche de lui. Celui qui est sur ma route, ça me donne une responsabilité particulière de l'aider parce qu'il est sur mon chemin, c'est comme ça. Et donc il s'approche de moi, il devient un peu mon prochain. Et le bon samaritain est certainement exemplaire. Pourtant, il ne courait pas dans tous les sens pour se dire « je veux trouver un blessé à aider ». Il n'était pas là pour ça, il se promenait. Il voit un blessé, le fait qu'il le rencontre lui donne une responsabilité et ce blessé qu'il a rencontré, il l'aide. Le samaritain n'est pas non plus une personne exemplaire qui aurait créé une ONG qui venant en but d'aider les blessés, des victimes, des brigands. Mais il se sent donc responsable de celui qui est sur son chemin. C'est-à-dire qu'il est capable, sur sa route, de faire preuve de compassion, de s'émouvoir de celui qui est sur son chemin, et il se sent responsable. Jésus conclut la parabole en disant « Toi, fais de même ». Donc effectivement, je garde ça pour l'instant, en disant « Si tu croises sur ta route quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien, aide-le, point. » C'est comme ça. Et quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, quel que soit son pays, quelle que soit sa couleur de peau, tu as devant toi quelqu'un qui a besoin d'aide, tu l'aides. Et je rentrais même là d'ailleurs dans un débat présent dans notre protestantisme, de savoir quand on fait de l'action sociale, est-ce qu'on peut simplement faire de l'action ou est-ce qu'il faut forcément en profiter pour leur coller une prédication de l'évangile en plus? le bon samaritain ne fait aucune prédication de l'Évangile. Il voit le blessé, il aide. Il n'en profite pas pour essayer de le convertir, si vous voulez, ou pour annoncer quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, ça fait partie simplement de l'humanité. Mais allons plus loin encore. En effet, je reviens à ma question, qui est mon prochain? Et quand je vous ai dit, le prochain c'est celui que je rencontre, c'est même pas vrai. Ça n'est même pas vrai, parce que c'est bien connu, et ça vous le savez sans doute si vous fréquentez ce temple depuis longtemps, quand le docteur de la loi dit « qui est mon prochain ?», Jésus ne donne pas la parabole du bon samaritain en disant « le bon samaritain a aidé le blessé qui était son prochain, donc ce serait celui qu'on rencontre », mais il renverse les choses et il dit à la fin « qui a été le prochain ?» de l'homme blessé, et il dit c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui, et Jésus lui dit bah oui, c'est tout à fait ça. Autrement dit, tout à coup Jésus inverse les choses et se met dans la situation du blessé par rapport au samaritain. Ce qui veut dire plusieurs choses. D'abord, qu'il ne faudrait pas réduire l'amour du prochain à l'action sociale ou au fait d'aider matériellement. Je ne suis même pas sûr que l'action du samaritain soit un acte d'amour. C'est juste un acte d'humanité, si vous voulez. Il voit un blessé, il l'aide. On ne lui demande pas d'aimer le blessé. On voit un blessé, on l'aide, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et d'ailleurs, le texte ne dit jamais que le samaritain ait aimé le blessé. Il ne l'aime pas. Il l'aide, il est ému de compassion. C'est ce que dit le texte. Il est ému de compassion. Et donc, il est ému de compassion, il l'aide, mais il n'en fait pas son prochain pour autant. Il ne le ramène pas chez lui. Il le confie à l'hôtellerie. Il dit, écoutez, débrouillez-vous, puis je payerai si vous voulez. Mais enfin, c'est bon, moi j'ai autre chose à faire. Si ça avait été son prochain, il ne l'aurait pas traité comme ça. Et donc, il faut peut-être penser que l'action sociale est évidemment très bien, et le texte ne dit que ça, pratiquement. Enfin, en tout cas, cela. Mais que l'amour du prochain, c'est encore un cran au-dessus. C'est encore plus que ça, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que celui qui est mon prochain, celui que je peux considérer comme de ma famille, de ma patrie, comme le plus cher à mon cœur, eh bien, c'est pas celui que je rencontre n'importe comment, c'est celui qui est venu à moi et qui m'a donné quelque chose, celui qui est venu à moi et qui m'a aidé. Celui qui vient vers moi et qui me donne quelque chose, il devient mon prochain. Parce que si c'était juste celui qu'on rencontre, qui est le prochain de l'homme blessé, on pourrait dire ben, c'est aussi le lévite et le prêtre qui n'ont rien fait du tout. Ben non, le lévite et le prêtre ne sont pas les prochains du blessé. La parabole est claire là-dessus. Et donc le blessé, à la limite, n'a pas à aimer comme son frère, le lévite et le prêtre qui se foutait complètement de lui, si vous voulez. Et donc, autrement dit, l'amour du prochain, c'est autre chose que l'aide. L'aide, elle est sans condition. Nous sommes appelés à aider et à secourir celui que nous rencontrons, point. Mais l'amour du prochain n'est pas sans condition. Et ce qui fait que dire que la parabole du bon samaritain serait de dire qu'il faut aimer tout le monde est faux et finalement donnerait raison à ce poison que je vous disais de l'extrême droite disant « j'aime mon voisin plus que l'étranger », etc. L'amour du prochain n'est pas sans condition. L'amour du prochain, c'est celui qui s'est approché de moi. Et en même temps, donc quelle que soit sa race, sa religion et tout ça, vous disais-je. Et puis en même temps, ça nous explique aussi non seulement qui est mon prochain, mais ce qu'est d'aimer en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement aimer, puisque le but du prochain, c'est de l'aimer. Et l'exemple d'amour qui est donné là, bizarrement, une fois de plus, n'est pas le samaritain. Le samaritain n'est pas un exemple d'amour. L'exemple d'amour, c'est vu du côté du blessé. Et ça, c'est très révolutionnaire, parce que le bon samaritain n'est pas un exemple d'amour, il est juste un exemple d'humanité de base, de compassion, d'aide, et c'est juste la base absolue, en dessous de quoi on n'est même pas une bête. Et le texte donc nous dit simplement que l'on peut aller plus loin parce que aimer son frère ou sa sœur, enfin aimer son prochain, sa prochaine, c'est entrer dans un autre type de relation que simplement de donner. C'est au contraire reconnaître l'autre comme quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose et qui peut me donner. Et en effet, aimer son prochain, c'est pas arriver comme un sauveur en disant « Mon ami, tu es bien malheureux, mais moi, je vais t'aider, je vais te donner de l'argent, je vais te soigner, je vais t'expliquer la vérité. » C'est pas ça d'aimer son prochain. C'est pas de se présenter en supérieur. Mais aimer son prochain, c'est l'aider à grandir, à se positionner en sujet et donc même se présenter en inférieur comme celui qui a besoin de l'autre. Aider, c'est dangereux, parce que aider l'autre, c'est faire de l'autre un objet. L'autre est l'objet de mon aide. Il n'a même pas besoin d'avoir un nom. J'ai donné 1 euro au SDF. Comment il s'appelle ? J'en sais rien, je ne sais même pas sa vie, ça ne me regarde pas. Mais donc l'autre est un objet, si vous voulez, c'est comme un parcmètre dans lequel on met un sou, et ça vous donne bonne conscience. L'autre est un objet. Ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est de regarder l'autre comme un « je ». Qui est cette personne que j'aide ? Qui est la personne en face de qui ? Et qu'est-ce qu'elle peut faire, même pour moi ? D'ailleurs, dans la parabole, le blessé n'est finalement personne. Il n'a pas de nom, il ne dit rien, il ne fait rien. Et il n'a aucun sentiment, totalement inexistant. Et Jésus dit, c'est lui. Mettez-vous dans la peau de celui-là et aimez l'autre, c'est reconnaître ce que l'autre peut faire pour moi de beau et de grand, et dire qu'on a besoin de lui. Et c'est regarder l'autre comme un sujet agissant, pas en assisté. Et ça, aujourd'hui, l'aide sociale l'a découvert. Au départ, les Restos du Cœur, par exemple, distribuaient des soupes aux gens qui avaient faim, ce qui est très bien, c'est le bon samaritain. Mais très vite, ils ont découvert que ça ne suffisait pas. Et qu'en fait, il ne suffit pas de nourrir les gens, il faut encore arriver à les remettre comme des personnes, pas comme des ventres qui mangent, comme des personnes. Donc il faut les écouter, les revaloriser, les rendre acteurs, sujets. Et quand il y a quelqu'un en difficulté, même dans la société, la meilleure chose qu'on puisse arriver à faire, c'est lui donner un rôle et lui dire « Mais toi, tu peux apporter quelque chose ». Et aimer quelqu'un, c'est pas lui dire « je suis merveilleux, je vais t'aider », c'est lui dire « tu vois, toi, eh bien tu as là quelque chose que moi je n'ai pas ». Si vous faites ça, vous ferez la plus grande des choses. Et c'est ça, véritablement, l'amour qui aide et qui fait grandir. On trouve ça sans cesse dans l'Évangile. Par exemple, cette petite morale de la paille et de la poutre. Vous savez, quand il dit si ton frère a une paille dans l'œil, ne lui dis pas « mon ami, je vais t'aider à enlever la paille qui est dans ton œil, mais regarde d'abord la poutre qui est dans le tien ». Et je continuerai en disant, par rapport à cette parabole, « dis à ton frère, mon frère, aide-moi plutôt à retirer cette poutre qui est dans mon œil. » Et là, vous ferez une très grande chose, plutôt que de vous dire « je vais te soigner », etc. Ou encore, dans le lavement des pieds, dans l'Évangile de Jean, chapitre combien 13, je crois, où certes Jésus va laver les pieds des disciples, il dit « il faut que vous fassiez pareil ». Donc très bien, il faut aider les gens, c'est très bien, à laver les pieds, parfait. Et vous savez, il y a ce passage très étonnant, quand il vient vers Pierre, et Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Et Jésus lui dit « si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi ». Ça veut dire que d'une certaine manière, il est plus facile de laver les pieds du pauvre que de reconnaître que j'aurais peut-être besoin, moi, que ce soit le plus pauvre, qui me lave les pieds. Et le véritable amour, c'est ça, c'est de dire à l'autre « tu peux faire quelque chose pour moi, tu es une personne, tu es un sujet ». C'est ça peut-être aussi le commandement d'amour, quand on dit « il faut aimer son prochain comme soi-même ». Ce n'est pas de l'aimer autant qu'on s'aime soi-même, mais c'est de dire « j'ai moi-même et j'aime mon prochain comme quelqu'un qui peut dire aussi moi-même ». Qui est ce prochain que j'aime ? C'est le seul qui ait une identité, celui dont je reconnais qu'il peut dire moi et celui qui a un sujet, parce que effectivement l'amour n'est pas, je dirais, à sens unique. L'amour, c'est un échange. Donc cette parabole, vous voyez, est complexe. Elle donne un exemple moral. Je retiens la leçon. Puis tout à coup, elle inverse tout. Donc là, je comprends. Je dis oui, d'accord. Donc aimer, c'est pas juste aider, mais c'est peut-être plutôt accueillir l'autre, même si je ne fais rien, le recevoir, l'écouter, me considérer, voir ce que l'autre peut me donner. Et puis tout à coup, Jésus re-renverse encore la chose et il conclut en disant « va et fais de même ». Fais de même que qui ? Le seul qui fasse quelque chose, c'est le Samaritain. Donc voilà qu'au total, il redonne raison à l'explication de l'école biblique que j'ai rejetée tout à l'heure. Donc finalement, le but, c'est bien d'aider. Et donc voilà, peut-être simplement pour dire que l'amour complet a ces deux dimensions. Tout à l'heure, j'ai enlevé la dimension d'aide à l'amour, mais non, bien sûr qu'il y a dans l'amour une dimension d'aide, fait cela, et en même temps, c'est aussi de voir l'autre comme celui qui peut me donner, et aimer, c'est donner et recevoir. Et puis bien sûr que la base de tout cela, pour nous chrétiens, par-delà le positionnement moral ou humaniste les uns par rapport aux autres, la base de tout cela pour nous, c'est que le Christ lui-même nous a aimés en premier. C'est ce que dit l'épître de Jean. Pour nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Donc certainement, nous sommes comme cet homme blessé. Et certainement que le Samaritain est bien l'image du Christ qui est venu nous aimer, qui nous a sauvés, qui nous a gardés, qui a donné sa vie pour nous, qui a pris soin de nous en payant de sa propre personne, sans condition, sans aucun critère de qualité, de quoi que ce soit. Jésus donne sa vie pour nous, nous aide, nous sauve et nous aime par pure grâce. Et certainement que cela nous remplit d'une sorte de responsabilité d'entrer dans une relation d'amour, vis-à-vis de celui qui nous a aimés, et également à notre tour d'aimer ceux qui s'approchent de nous, d'aimer ceux qui sont mis sur notre route, et vis-à-vis de qui nous sommes invités à exercer la miséricorde, comme le Samaritain, et bien plus à entrer avec eux dans une relation d'amour. Amen.